Chapitre 21. Notre vie n'est en rien une figure linéaire. Elle ressemble plutôt à l'unique exemplaire d'un livre, pour certains d'entre nous composé de quelques pages seulement, propres et lisses, recouvertes d'une écriture sage et appliquée, pour d'autres d'un nombre beaucoup plus important de feuillets, certains déchirés, d'autres plus ou moins raturés, pleins de reprises et de repentirs. Chaque page correspond à un moment de notre existence et surtout à celle ou celui que nous avons été à ce moment-là et que nous ne sommes plus et que nous regardons, si jamais nous prend l'envie ou la nécessité de feuilleter le livre, comme un être tout à la fois étranger et paradoxalement, étrangement proche. J'ai été tenté d'évoquer ce constat devant Michel Piccoli. Peut-être parce que l'âge du comédien et la douceur de ses manières, la bonté de son regard, un regard qui n'était pas perçant mais diffus, adouci, comme estompé sur ses marges, me laissait penser qu'il pouvait me comprendre. Eugène connaissait Michel Piccoli pour avoir produit il y a une vingtaine d'années un film dans lequel il tenait le rôle principal. J'avais aperçu le comédien à l'enterrement de mon ami, marchant lentement, voûté et doux, et qui paraissait perdu dans la foule comme un enfant dans une réunion de grandes personnes. Je n'en étais alors qu'au début de ma réflexion sur ce qui allait devenir le sujet de « La fabrique intérieure », et ce n'est que plus tard, tandis que j'entendis la voix du comédien sur les ondes de France Culture, dans une série d'entretiens de l'émission « À voix nue » qui lui était consacrée, qu'il me parut évident, nécessaire, que ce fut lui qui interpréta Echo 23-987, cette créature artificielle livrée à Paul, le personnage de mon film. Quand j'ai pris contact avec lui par l'intermédiaire de son agent, Michel Piccoli m'a aimablement et très vite répondu en me proposant un rendez-vous non pas dans un bar de palace, comme c'est souvent le cas avec les actrices et les acteurs qui feignent d'aimer la discrétion tout en appréciant avant tout d'être reconnu, mais dans un McDonald's, proche de son domicile, m'expliquant quand je le rejoignis qu'au moins ici, on ne serait pas ennuyé car personne parmi toute cette clientèle composée de jeunes gens ne savait qui il était. J'appartiens à des temps révolus, comme les dinosaures et les bonnes manières. Nous avons d'abord évoqué Eugène, dont il me dit avec une gravité tendre qu'il l'aimait beaucoup. Il répéta trois fois cette simple phrase « Je l'aimais beaucoup », qui aurait pu être de simple politesse si la résonance de sa voix, sa lenteur, sa profondeur rêveuse et le sourire lointain sur son visage n'avaient pas contribué à lui donner, sans doute possible, un sceau de vérité. Lorsque je commençais à évoquer la fabrique intérieure, en lui proposant de lui laisser le scénario que j'avais apporté, afin qu'il prenne le temps de le lire, il m'arrêta et me demanda de lui raconter l'histoire, me disant que les scénarios l'ennuyaient, qu'on ignorait en les lisant le degré d'attachement que leur portait le metteur en scène, qu'on ne savait jamais si le type était prêt à crever pour le sien ou s'il avait simplement envie de faire le malin avec une caméra pour passer dans deux ou trois émissions de télévision et qu'on le prenne au sérieux. Il m'avait dit cela sans volonté de provocation, comme une sorte de constat acquis au bénéfice d'une très longue carrière. Il avait tenu également à me préciser qu'il connaissait assez mal mon travail, hormis un documentaire que j'avais consacré à un vieil homme, artisan horloger, et un film qui se passait entièrement dans une forêt, mon deuxième film, après, qui suit l'errance et la tentative de survie d'un homme interprété par Benoît Régent, qu'on suppose être un déserteur ayant fui un conflit qui n'est jamais clairement nommé ni daté. J'ai commencé par le commencement. Je lui ai raconté Elena vue de ma fenêtre, lointaine, simple corps déambulant dans un cadre placé à distance, qui paraissait attendre que je la remplisse d'une histoire, d'un caractère, de sentiments, de souvenirs, que je l'anime, que je la place dans des situations que j'aurais imaginées pour elle, que je l'intègre progressivement à ma vie, que j'en fasse un être réel. Piccoli m'écoutait avec attention, sirotant de temps à autre avec une paille et, semble-t-il, avec un grand plaisir, son milkshake fraise, tandis que refroidissait devant moi un royal bacon et des frites que j'avais commandées parce qu'il avait bien fallu commander quelque chose, mais que je n'avais pas touché. Autour de nous, de jeunes adolescents blacks écoutaient du rap diffusé par les haut-parleurs de leur téléphone portable, en bougeant la tête comme les angelots en plâtre des églises qu'il suffit de nourrir d'une pièce de monnaie pour les animer. Ils parlaient fort, comme s'ils étaient sourds ou que le volume de leur voix fût bloqué à son degré maximal. Mon intention n'était pas de faire un film d'anticipation au sens classique du terme. Le futur dont il était question était suffisamment proche pour que, dans les décors, les costumes, les habitudes, rien ne diffère de ce que nous connaissions aujourd'hui. La fable que je voulais construire jouerait avec un certain fantastique qui tiendrait essentiellement dans le rapport que les possesseurs d'Echo entretiendraient avec leurs créatures, faisant d'elles des robots dotés de pouvoirs et savoirs minimaux, ou bien au contraire des machines spécialisées dans un domaine d'une extrême précision. Le fait que la plupart des acheteurs optent pour des modèles d'apparence jeunes et pourvus d'un physique admirable créerait soudain un double malaise. On assisterait à une standardisation du paysage corporel, les mêmes types masculins et féminins, beaux et jeunes, seraient soudain surreprésentés. Et du même coup, cette surreprésentation de la beauté induirait des comportements dépressifs chez les êtres humains incapables, en regard de leurs créatures immarcessibles, d'accepter leur propre disgrâce et le vieillissement de leur corps. Le cas de Paul, qui fait le choix de commander et posséder un écho peu conventionnel, puisqu'il exige qu'il ait des traits d'un vieillard, inquiète les services de l'administration. Mais aucune loi ne peut empêcher la société qui produit les robots d'accéder à sa demande. Lorsqu'on découvre qu'à l'inverse de ses contemporains, il ne se contente pas d'entrer dans son écho quelques données basiques et quelques souvenirs, mais fait tourner jour et nuit les circuits de mémorisation disponibles sur l'ensemble de la sphère Internet pour remplir sa créature non seulement de toute la mémoire du monde, du savoir connu, mais aussi des éléments comportementaux et émotionnels qui couvrent toutes les situations que les êtres humains rencontrent au cours de leur existence, l'État décide de lui retirer son robot et de le détruire. Mais comment détruire ce qui dépasse en savoir et en intelligence tout ce qui est connu ? Echo 23987 n'est pas seulement constitué de l'équivalent de toutes les données disponibles sur les réseaux. Il possède aussi, par son pouvoir de combinaison et sa capacité d'extension illimitée de sa propre mémoire vive, quelques nanosecondes d'avance sur ses réseaux. Echo 23987 surpasse toutes les autres machines, les englobe et les rend obsolètes. Au fond, ce n'est qu'un ordinateur surpuissant, capable d'étendre en temps réel sa surpuissance. Mais ce qui semble insupportable au pouvoir, c'est qu'il ait des traits extérieurement humains, l'apparence d'un vieillard rêveur et paisible. C'est comme si soudain Dieu se matérialisait, alors que depuis des siècles, l'homme n'a cessé de vouloir s'émanciper de lui et le tuer. Et c'est bien cet aspect symbolique qui devient inacceptable. Qu'importe que ce corps soit constitué d'une peau synthétique recouvrant des circuits imprimés et des centres de stockage, son apparence est trop humaine et ses pouvoirs trop inhumains. Cela signe son arrêt de mort. Mais la fin du film est ouverte. Comment parvenir à faire mourir ce qui n'est pas vivant ? Lorsque je me suis tu, je me sentais dans la peau d'un candidat venant de passer un examen crucial et qui attend fébrilement le verdict de l'examinateur qui se tient face à lui. Michel Piccoli ne s'est pas hâté pour rompre le silence. Il me regardait avec attention, comme s'il cherchait à lire derrière mon visage ce que je tentais éventuellement de garder pour moi. Puis il a baissé les yeux vers la table, et désignant le petit paquet rond enveloppé d'un papier cristal, il m'a demandé « Vous ne mangez pas votre hamburger ? et sans attendre ma réponse, il s'est saisi du sandwich, l'a déballé et a mordu dans mon royal bacon, dont il a mastiqué une bouchée en grimaçant. C'est immonde, mais je ne supporte pas le gâchis alimentaire. Je suis un enfant de la guerre, voyez-vous. Il me semble que j'ai acquiescé, ne sachant trop comment réagir, me demandant s'il se moquait de moi ou s'il était brusquement devenu fou. Mais avant de mordre une deuxième bouchée, il a repris « Je n'ai jamais joué Dieu. Un pape, oui, mais pas Dieu. J'attendais cela depuis une éternité. » Et il a ri. Il a ri très fort. Il a ri si fort que soudain, toutes les musiques et conversations qui emplissaient le lieu se sont éteintes, ensemble, à la même seconde.